Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première réunion de l'espace de réflexion éthique en santé mentale. Alors, je crois que les mots sont très importants. Un espace, ça veut dire que c'est ouvert aux autres. C'est-à-dire, il s'agit de ne pas enfermer l'éthique dans une théorie, dans un groupe de personnes. Il s'agit de partager. J'ai regardé dans le dictionnaire où souvent on assimile l'éthique et la morale, mais finalement, j'aime bien cette réflexion de Comte-Spongeville. La morale, c'est ce qu'on fait par devoir, et l'éthique, c'est ce qu'on fait par amour. Et je trouve que c'est très bien, parce que finalement, ça nous apprend à partager, à mettre nos émotions pour essayer de trouver une façon de mieux vivre ensemble et de rendre ce monde un peu plus habitable. Alors, nos professions de droit et de santé se rejoignent, puisque la santé, c'est un état, nous dit l'OMS, un état de bien-être physique, mental et puis aussi social. Alors, si les deux premiers items sont effectivement le problème des professionnels de la santé, je crois que le droit, dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est vie en société, a toute sa place. Donc, bienvenue, bonne soirée et merci à M. Dupont qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir.
Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis Thierry Danel et pour l'instant, j'ai la charge de la direction de cette fédération. Un tout petit mot d'abord pour situer la fédération, pour ceux qui ne la connaissent pas obligatoirement. Donc, c'est un groupement d'intérêt public qui regroupe les 31 établissements du Nord-Pas-de-Calais ayant mission de s'occuper de santé mentale, de psychiatrie, alors que ce soit établissement public, établissement privé et PSPH. Et donc c'est une fédération régionale de recherche en santé mentale. Et donc c'est l'occasion de répéter et de dire à chaque fois qu'il convient de ne pas s'auto-censurer et que si des personnes ont des projets de recherche à mener, des projets de recherche à faire mûrir, voire à présenter ensuite pour des autorisations administratives ou une aide à la formulation et à la rédaction, la fédération, elle est là pour ça. Donc il y a tout un chapitre comme ça dans notre fédération qui est une aide méthodologique à la réalisation des projets de recherche. Ça se fait d'une manière extrêmement conviviale et simple. Il y a un conseil scientifique qui se réunit et puis on peut les présenter. Il y a une cellule méthodologique qui reçoit. Alors il suffit d'écrire à la fédération, de téléphoner 03 20 44 10 34. C'est assez simple. Et Delphine est là, elle est ravie que je me souvienne du numéro de téléphone, mais je l'ai fait assez souvent quand même, donc pour pouvoir présenter ses travaux. C'est au cœur quand même du fonctionnement. La deuxième chose, après cette aide méthodologique, qui existe évidemment au niveau universitaire, et là donc on est dans l'aide méthodologique beaucoup plus pour les hors champ universitaire dans un premier temps, concernant les médecins, mais aussi les infirmières bien sûr, mais aussi les gestionnaires d'établissements, mais aussi les sociologues, mais aussi les psychologues, donc quelque chose de très large, la fédération se tient à disposition pour aider à la formalisation de ces projets. Et au-delà de la formalisation des projets, c'est aussi à leur diffusion. On peut aider, bien évidemment, enfin on, quand je dis on, c'est vous, puisque la fédération, c'est nous tous, c'est les établissements adhérents et les personnels qui y sont employés. Et donc, il y a cette aide méthodologique, puis il y a la valorisation. Alors, on est assez content quand même de dire qu'une jeune fédération, 2 ans et 2 mois de fonctionnement, il y a eu communication dans 7 ou 8 congrès nationaux et régionaux, sous forme de poster ou sous forme de communication orale. Et puis il y a eu aussi, en 2009, et ça continue en 2010, une dizaine de papiers, comme on dit, donc de communication à écrit, de publication, dans des revues, à la fois des revues professionnelles, et puis un petit peu dans des revues plus technique et référencée, donc ce qui permet de dire ce que l'on fait dans cette fédération. Donc, l'aide méthodologique, la valorisation avec des communications régionales et des publications, et puis également valorisation en participant, enfin aux demi-journées de la fédération, hein, il y a une demi-journée à chaque saison, hein, et qui permet d'aller d'un côté à Rang-du-Flier, à un autre moment à Maubeuge, à un autre moment à Arras, et comme ça, chaque saison, il y a une demi-journée consacrée aux travaux de la fédération. Il va y avoir la prochaine, c'est à Villeneuve-d'Ascq, c'est jeudi prochain, c'est autour de la remédiation cognitive. Donc valorisation très important, aide méthodologique. Il y a un observatoire régional de la santé mentale qui est aussi quelque chose qui est assez important au sens de la mobilisation de ce qui est mis en œuvre et puis du travail à demander avec de l'exploitation de données, des données existantes. En particulier, on dit toujours qu'on est très fier hein, d'avoir un accord avec les caisses de remboursement. On a un accord avec la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, avec RSI et avec MSA, donc les caisses agricoles, les caisses des indépendants et la CNAM, pour voir les consommations de psychotropes et puis au-delà, dans des populations spécifiques, personnes âgées et cette année, femmes enceintes. Et puis il y a l'exploitation d'autres données, de données régionales et de données concernant des données socio-économiques permettant d'avoir des profils, en particulier des profils de population dans les secteurs. Travail avec les urgentistes présents, et on les salue hein, dans la salle, travail avec les urgentistes autour de problématiques de santé publique importantes, et en particulier ce qui concerne le suicide. Et donc là, aussi articulation avec des données existantes, en particulier des données du SAMU. Et tout ça, c'est des lignes et des lignes, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, de lignes informatiques traitées. Et on les remercie, et en particulier, on remercie Laurent Planck, qui n'est pas là ce soir, je le dis, mais qui n'est pas là, mais qui travaille énormément pour nous permettre d'exploiter ces données. Donc, une aide méthodologique, une valorisation des travaux, un observatoire régional, et puis quelque chose qui est aussi au cœur, et je dirais qui était sur les fonds baptismaux de la fédération, c'est le partage des pratiques. Et rompre l'isolement des pratiques a été au cœur de la constitution de cette fédération. Alors, c'est quand même extraordinaire d'être 31 établissements qui sont là et qui, par différentes méthodes, partagent leurs pratiques. Alors, l'une des méthodes dont on est tous très fiers, parce qu'on y participe tous et qui marche pas mal du tout, c'est cet audit croisé interhospitalier auquel les trois quarts d'entre nous ont participé, hein, qui fait que des équipes d'un secteur hospitalier va auditer la pratique d'un collègue situé à 50, 100 ou 200 kilomètres. Et donc, Maubeuge va aller auditer Boulogne, et Boulogne va aller auditer le PSM des Flandres, qui va auditer Rang-du-Flier. Et donc, on a fait un premier audit sur l'isolement thérapeutique, et on a fait un deuxième audit cette année. En 2008, le premier audit sur l'isolement thérapeutique. Le deuxième audit, c'est fait sur la prise en compte de la santé somatique en santé mentale, eu égard à la perte de chance, on va dire, hein, ou à l'espérance de vie qui est de manière très significativement plus basse chez les personnes présentant des troubles mentaux. Donc il y a un éclairage particulier, c'est pas le lieu d'en parler ici. Et à propos de l'isolement thérapeutique, eh bien, il y a eu des prolongements. Les acteurs de cette commission sont présents dans la salle, il y a des recommandations qui ont été faites, et d'aucuns s'en sont saisis d'ailleurs pour faire des EPP à ce niveau. Et donc, prolongement de ce partage des pratiques, est apparu à un moment la nécessité que ce partage des pratiques se fasse effectivement ou entre établissements, et puis non pas convoqué, d'inviter d'autres structures. Alors bien évidemment, les usagers et leurs familles font partie hein, du Conseil scientifique de la Fédération, et donc participe à cette réflexion, et on dit ça du bien, et puis aussi les représentants de la société civile, et le bâtonnier René Despigard est dans la salle, et je le remercie infiniment d'avoir été là aussi pour dire que c'était intéressant. Je sais pas tout d'avoir des idées, mais je peux dire que c'est intéressant, et ta présence... René Despigard est là aussi pour nous dire qu'il faut continuer cette réflexion aussi menée avec l'association, avec l'ADESME, hein, les établissements de santé mentale, qui nous permet de dire qu'effectivement, bah, il y a les professionnels travaillant dans les établissements, et puis il y a les structures, et puis il y a les usagers, et puis il y a le barreau de Lille, et puis il y a les établissements de santé mentale et les gestionnaires de santé mentale. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'avoir ce lieu de cette fédération. Alors, j'arrête là pour vous dire le plaisir énorme quand on s'est dit, tiens, on va porter sur les fonts baptismaux un espace, et comme dit Martine, hein, c'est important de la sémantique, espace de réflexion éthique en santé mentale. D'abord, on s'est dit, on va faire une soirée, puis on va se compter. Alors, bien sûr, on a triché, on a pris un auditeur, on a demandé un orateur prestigieux, à Bernard-Marie Dupont, de venir. Donc, beaucoup tient à cela, mais qu'on soit ce soir plus de 80, c'est quand même extraordinaire, et on est vraiment très content de voir que, en tout cas, cet appel, et on se compte, maintenant, on se compte à beaucoup, c'est quelque chose d'intéressant à continuer dans la réflexion. Donc il y a beaucoup de remerciements à faire. Je pense qu'on peut remercier les personnes citées, remercier Pierre Hume, qui est le manager de cette commission concernant la mise en place de l'éthique, remercier quelqu'un qui est en train de se geler encore dans l'escalier. Non, elle est rentrée. Juliette, qui est la Favier, qui est une étudiante en Master 2 de droit et santé, et qui a confortement, qui a bien travaillé, contribué aux invitations, et donc on la remercie. Je remercie toujours Delphine, évidemment, Pastureau, qui fait un travail exceptionnel à la Fédération, ainsi que Sophie Danel, la chargée de communication. Je passe la parole à Pierre, ça va se dérouler, vous avez le programme. Pierre va intervenir pendant un quart d'heure, m'a-t-il dit, c'est ça, hein, sur éthique et santé mentale. Ensuite, il y aura la conférence, hein, de Monsieur Bernard-Marie Dupont, et Pierre le présentera. Et un Pierre Thomas, notre Pierre Thomas, qui est président du Conseil scientifique, animera la discussion et nous fera la conclusion. Voilà.
Bonsoir. Donc, je vais effectivement dire quelques mots sur les circonstances qui ont poussé à proposer comme ça ce lieu d'échange et de réflexion sur l'éthique avant de donner la parole à Bernard-Marie Dupont, qu'on est très content d'accueillir ce soir. Alors, en guise d'introduction, je propose d'abord de prolonger ce qu'a dit Thierry Danel, hein, sur effectivement les circonstances qui ont les lignes de force qui ont conduit à cette réflexion éthique. Et puis après, je dirai quelques mots sur les différents problèmes, disons, cliniques ou thérapeutiques, problèmes qui appellent une réflexion éthique et qui pourraient constituer des objets de réflexion dont la portée éthique est assez manifeste. Alors effectivement, deux lignes de force ont conduit la Fédération a proposé cet espace, hein, d'échange. La première, c'est la mise en place des comités éthiques sur la région. On constate qu'en un an ou deux ans, enfin, on dénombre de plus en plus de comités. Enfin, il y en a au moins sept aujourd'hui. Et ces comités éthiques, effectivement, prennent appui sur une impulsion qui est donnée par les pouvoirs publics pour organiser de manière institutionnelle une réflexion éthique. Alors, ces instances qui s'organisent pour réfléchir et organiser la pratique de l'éthique, c'est tout l'enjeu, au fond, aujourd'hui et puis aussi de ce soir, pour envisager les perspectives qui sont à la fois très tentantes et très pertinentes, et puis aussi les risques. Alors, aujourd'hui, on est confronté peut-être à une diversité de pratiques de l'éthique, et peut-être juste quelques mots pour éclairer un peu ce paysage très compliqué qu'aujourd'hui. Donc, les comités éthiques sont en train de se mettre en place, mais il y a aussi le Comité consultatif national d'éthique qui a été créé en 1983 par le président de la République et qui, lui, alors tout à fait d'une manière très différente, donne des recommandations, enfin, produit environ quelques arrêtés par an. Et donc, c'est très différent des comités éthiques qui, semble-t-il, se prononcent sur une situation singulière et non donnent des recommandations très générales sur des points alors extrêmement variés. C'est vrai que probablement que la première fécondation in vitro a été déterminante dans la mise en place du comité consultatif national d'éthique. Et aujourd'hui, les différents points qui sont abordés sont assez variés. Donc les espaces éthiques aussi régionaux qui se mettent en place, dont certains existent depuis plus longtemps, dont l'espace éthique dans ce public au Pilote Paris, dont tu fais partie depuis 15 ans. Il y a aussi alors peut-être des espaces éthiques régionaux, alors un notamment qui est à Rennes, qui au CHU de Rennes, où d'ailleurs le fonctionnement assez intéressant a permis à Geneviève Lagré, qui est philosophe et qui a participé à ce comité éthique, de produire un livre tout à fait remarquable qui s'appelle Le médecin, le philosophe. Et donc livre tout à fait intéressant. Donc comité éthique des espaces éthiques régionaux, enfin les espaces éthiques régionaux qui se constituent, qui sont en train de se constituer. Et donc un contexte qui devient très, un paysage qui devient très riche, très différent, où il est peut-être aujourd'hui un peu difficile de savoir un peu où on est, mais on nous en dira quelques mots tout à l'heure. Alors, la deuxième ligne de force qui a conduit la Fédération à proposer ce lieu de réflexion, c'est effectivement, comme disait Thierry Danel, hein, les partages des pratiques, avec notamment un travail sur l'isolement et la contention, travail effectivement qui touche des choses extrêmement difficiles. Et c'est un exemple qui peut-être est très intéressant à examiner parce que l'isolement, enfin, si on regarde un petit peu l'histoire de la psychiatrie, était au XIXe siècle considéré comme étant thérapeutique en soi, enfin, isolé c'était soigné, et aujourd'hui les choses se présentent tout à fait différemment. L'isolement n'est peut-être plus un soin en soi, mais plutôt une mesure temporaire qui donc ouvre de ce fait peut-être une réflexion éthique, une double réflexion éthique, je dirais, d'abord parce que on peut se demander ce qui justifie d'un point de vue thérapeutique l'isolement, question complexe, et puis l'autre aspect aussi plus simple sûrement, mais aussi intéressant, consiste au fond à encadrer les modalités de l'isolement en portant particulièrement attention à certains aspects, en particulier la dignité du patient, les libertés temporairement suspendues. Donc deux aspects de la réflexion éthique très différents. Alors confronter de ce point de vue soin et liberté, c'est peut-être déplacer la question du soin et ouvrir à une réflexion éthique. On peut assez simplement considérer que l'isolement suspend de manière temporaire un certain nombre de libertés qu'on peut identifier. La liberté de se déplacer, évidemment, la liberté aussi de consentir aux soins, de refuser les soins, de choisir un type de soins approprié. Et puis d'autres libertés qui sont peut-être aussi importantes, celles de téléphoner, de contacter les proches, d'avoir des visites. D'autres libertés encore qu'on peut identifier. La question qui du coup peut être posée, c'est de savoir parmi toutes ces libertés qu'on peut identifier, lesquelles doivent être nécessairement suspendues en raison de la mise en place d'un soin, et à l'inverse, quelles sont les libertés qui peuvent être préservées, dont l'exercice finalement n'est pas en contradiction, n'empêche pas la mise en place d'un soin. Alors mon but n'est pas de donner une réponse toute faite, évidemment, à ces questions qui ont suscité de la part des acteurs, l'année dernière, énormément de points de vue très différents, mais de voir à travers une question qu'on peut déplacer, disons, une question au début thérapeutique, qu'on peut peut-être formuler différemment, et du coup mettre en évidence des enjeux éthiques. Alors, sur la base de ces deux lignes de force, la mise en place des comités éthiques et puis l'échange des pratiques, la question que je pose est de savoir si on peut identifier finalement des particularités qui seraient propres à une éthique en santé mentale. Ce qu'on met en place est un espace de réflexion éthique en santé mentale, et donc la question qui me paraît tout à fait essentielle, c'est de savoir si cette éthique-là est différente ou pas d'une éthique médicale. Est-ce que, au fond, les problèmes d'une éthique en santé mentale ces problèmes sont-ils différents d'une éthique en médecine? Moi, je serais... Enfin, ma réponse est non, mais encore faut-il la préciser et un peu développer ces aspects-là. Il me semble que un des enjeux principaux et la difficulté, c'est justement de ne pas séparer une réflexion éthique en psychiatrie, en santé mentale, des autres parties de la médecine. Alors, pour éclairer un peu ce propos, je vais essayer d'identifier différents types de problèmes qui, à la fois, concernent évidemment la psychiatrie d'une manière très singulière, mais aussi l'ensemble de la médecine. Problèmes qui traversent l'ensemble de la médecine et problèmes dont la portée, finalement, se dégage des soins au sens strict et ouvre à une réflexion éthique. Alors, le premier problème qu'on peut identifier, c'est celui, l'exemple que j'ai pris, qui est l'isolement thérapeutique, qui permet de poser la question en termes de soins et de restriction de liberté. Alors, on n'a peut-être pas l'habitude de poser les choses sous cette forme-là, sous cet angle-là, en médecine, en psychiatrie, mais en même temps, formuler les choses de cette manière-là met en évidence peut-être certains aspects qui déplacent finalement la question du soin du côté de l'éthique. Alors, le deuxième problème très général, qui me semble assez intéressant et peut-être porteur pour poser des questions éthiques, pour susciter une interrogation éthique, c'est la question très large du consentement aux soins, et puis donc des soins sous contrainte, toutes les formes d'obligation de soins, qui donc évidemment nous conduit à des enjeux, disons, éthiques, avec, alors de manière, je dis un peu simplement, des questions très 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 larges et très complexes, mais qui, de manière un peu grossière, sont celles de la liberté, celles d'accepter les soins ou les refuser, aussi la question de la dignité. Et ces questions-là, me semble-t-il, ne se limitent pas au champ de la psychiatrie ou de la santé mentale, mais traversent l'ensemble de la médecine. Peut-être la psychiatrie a-t-elle un certain savoir-faire, malheureusement, en matière de soins sous contrainte, et disons, à travers ce travail assez complexe de tenter de mettre en place une alliance thérapeutique en évitant la contrainte. Enfin bref, autour de cette question-là, il y a une pratique psychiatrique assez assez raffinée. Peut-être dans d'autres domaines, la réflexion, disons, psychiatrique est moins en avance, ou voire même un peu moins en avance, disons. Et alors, précisément sur le troisième problème que je propose, qui est, de manière assez simple, la transparence des diagnostics, et puis aujourd'hui la personne de confiance, qui est une personne référente, ce qui nous amène à des questions assez complexes concernant les limites du secret médical et du consentement. Alors, compris évidemment dans une dynamique de relation, sachant que il ne s'agit pas, dans une logique de transparence, de tout dire tout de suite à un instant T, mais aussi de se demander quelle information le patient est susceptible de recevoir, quelle place donner aux proches, de quelle manière de quelle manière engager la famille. Et donc, cette question du consentement aux soins, qui encore une fois n'est absolument pas spécifique à la psychiatrie, mais nous intéresse particulièrement en psychiatrie et en santé mentale, et je pense aussi il intéresse l'ensemble des praticiens et des soignants au sens large, ouvre des questions évidemment thérapeutiques et médicales, mais aussi nous invite à considérer l'autre, le malade, comme une personne singulière, et donc met en place, comment dire, des questions qui, on voit, sortent un peu du vocabulaire classique de la médecine et de la psychiatrie. Alors, un autre exemple encore qui peut susciter une réflexion éthique, c'est la prise en charge des détenus, aussi bien dans le champ de la psychiatrie que dans le champ de la médecine. On peut, sans, je pense, se tromper, penser que les détenus n'ont pas accès aux soins comme les non-détenus. Alors certes, être détenu complique terriblement les choses, ça on comprend bien, mais là, il y a des enjeux de conception, d'accès aux soins, de dignité, de manière de soigner qui dépasse simplement les seules compétences thérapeutiques, mais ouvre à des enjeux évidemment éthiques. Alors, un ou deux exemples encore. Le tabac aussi peut être une question importante, l'hygiène aussi, enfin, toutes ces questions de savoir comment procéder par rapport à qui concerne à la fois le quotidien des soignants dans les services hospitaliers et en même temps sont peut-être une porte d'entrée pour aborder des questions éthiques. Alors, j'ajouterais comme dernier exemple les pathologies chroniques, qui me semble aussi un objet de travail tout à fait intéressant, parce que précisément ce que vise le soin n'est pas la guérison par définition, mais une amélioration de l'état du malade. Et ça oblige en quelque sorte la médecine à considérer que le but n'est pas de soigner une maladie ou de soigner un organe ou des symptômes, mais bien de soigner une personne malade dont le but est d'améliorer son état de santé et pas simplement de résorber un certain nombre de symptômes. Ce qui du coup oblige à prendre en considération effectivement une personne concrète à un moment donné, qui a un passé, qui a aussi des projets, qui vit d'une certaine manière dans un environnement avec des proches, avec une vie affective, dans une vie professionnelle, attachée aussi à certaines valeurs, de telle sorte que on comprend. Alors c'est des choses assez classiques d'une certaine manière en médecine, mais ces pathologies chroniques nous obligent finalement à faire référence à des notions que sont la personne singulière et peut-être alors la notion de santé. Notion assez compliquée dont il faut certainement qui nécessite certainement une réflexion et un travail plus avancé parce que effectivement il y a des pièges assez manifestes. La santé n'est pas un idéal de santé à construire, c'est pas non plus une référence à l'homme moyen. On imagine difficilement expliquer à nos patients que l'état de santé visé, c'est celui le plus commun statistiquement recensé. En revanche, peut-être faut-il concevoir la santé comme étant effectivement un état qui à la fois peut s'objectiver, mais aussi nécessite une appréciation subjective, qui est celle du patient malade. Alors la définition de l'OMS, évidemment, nous inquiète un peu, parce que l'état de complet bien-être est un peu peut-être en décalé par rapport à l'état de santé tel qu'on peut le concevoir, mais l'intérêt de ces définitions, c'est certainement de proposer une définition que je rappelle, l'OMS définit la santé en disant que la santé n'est pas simplement l'absence de maladie, mais est aussi un état de complet bien-être. Complet bien-être, c'est quelque chose qui peut nous inquiéter. En revanche, cette définition qui finalement ne réduit pas la santé à l'absence de maladie est quelque chose qui peut être très pertinent. Parce que effectivement, cette définition négative de la santé n'est pas suffisante, encore faut-il lui donner un contenu. Alors, ces différents exemples montrent de quelle manière, au fond, une réflexion sur les soins peut, sur une réflexion, à partir d'une réflexion sur les soins, peut prendre appui une réflexion éthique. En reformulant les questions, en déplaçant un petit peu l'angle d'approche, en posant effectivement, par exemple, la question du soin, en le confrontant à l'action de la liberté, ne sont pas peut-être des questions que l'on a l'habitude de formuler au quotidien en tant que soignant, mais qui donc nous invitent à nous engager à des questions plutôt qui sortent de notre simple pratique de soins. Alors, peut-être faut-il lier de manière très forte l'éthique et le soin, la pratique du soin. Il est peut-être judicieux de se référer de manière très simple à la relation de soins. Relation de soins qui relie deux personnes, relation qui est fondamentalement déséquilibrée, puisque l'un est malade, affaibli, et a besoin d'être aidé, et l'autre est disposé à porter soin et dispose d'autre part d'un savoir. Et sur la base de cette relation, on voit bien que le pire peut être produit comme le meilleur. Enfin, les différents possibles sont extrêmement étendus. Et à partir de cette relation de soins, on peut éventuellement comprendre un peu la genèse de ce lien très complexe entre le soin et l'éthique, qui sont liés très fort. Et de ce point de vue, je fais référence à un article très intéressant de Frédéric Worms, qui a été publié dans la revue Esprit en 2006, qui s'appelle « Les nouvelles figures du soin », et son article « Qu'est-ce qu'un soin ?» justement analyse la relation de soins sur la base de la relation mère et enfant, et à partir de là, reconstruit, enfin avec des étapes évidemment, un peu cette relation très complexe qui relie donc, une relation déséquilibrée, hein, qui relie un soignant et un malade. Alors j'ai rapproché le soin et l'éthique, peut-être faut-il aussi les séparer. Il y a en effet peut-être des modalités de raisonnement éthique avec des notions qui organisent et qui sont peut-être très différentes de la pratique du soin et des raisonnements propres au soin. De manière très simple, enfin, on voit à travers les exemples que j'ai donnés, enfin, ce lien assez compliqué entre soin et éthique. Peut-être que des notions sont essentielles, comme la notion de personne singulière, c'est-à-dire que, effectivement, ce que vise le soin, c'est finalement d'améliorer l'état de santé d'une personne singulière à un moment donné dans un contexte très particulier, en lien avec, encore une fois, ses proches, enfin, par rapport à des valeurs que sont les siennes. Et puis d'autres notions, sûrement, essentielle pour l'éthique, enfin, j'en ai parlé un peu, la notion de liberté notamment, ou de dignité, de vérité aussi. Alors, pour conclure, enfin, avant de laisser la parole à Madame-Marie Dupont, je terminerai en répondant, en formulant et en tentant de donner quelques pistes de réponse à la question pourquoi un espace éthique en santé mentale aujourd'hui ? Parce que pourquoi un espace éthique en santé mentale, on en comprend l'intérêt, mais pourquoi aujourd'hui particulièrement? Parce que oui, on peut très simplement s'étonner un peu de cet intérêt pour l'éthique, dans la mesure où, au fond, si on regarde les textes du corpus hippocratique, c'est-à-dire Hippocrate, un des fondateurs de la médecine en Grèce antique, la pratique de l'éthique est tout à fait constitutive de la pratique du soin. Et alors d'une manière évidemment tout à fait différente, enfin dans un contexte différent. Enfin à cette époque, la médecine n'était pas une institution. Les consultations étaient souvent publiques, enfin les médecins allaient pas chez les personnes, mais c'était un contexte tout à fait différent. Et pourquoi aujourd'hui sommes-nous sensibles à ces questions qui, au fond, à bien des égards, sont constitutives d'une pratique médicale et psychiatrique? Alors, je propose quelques hypothèses, et puis je pense que tout à l'heure, Madame-Marie Dupont va ranger ces hypothèses, enfin, en abordant des enjeux politiques, juridiques, philosophiques aussi. Alors, peut-être peut-on se dire qu'il y a un certain contexte intellectuel qui appelle, au fond, une réflexion éthique. Le XXe siècle se caractérise peut-être par des doutes concernant ce que peut apporter le progrès, avec finalement des doutes sur la capacité de la science à apporter un certain bien-être. Le développement de la science, d'une certaine manière, par les possibilités techniques, a bouleversé un ordre de la nature qui semblait jusqu'à présent immuable, et au fond, tout semble possible. Et peut-être ce champ des possibles appelle une réflexion qui viendrait réguler, poser des limites, organiser un peu aussi ce qui semble un peu inquiétant. Et de ce point de vue-là, une réflexion éthique qui... Enfin, la philosophie morale au XXe siècle et l'éthique aujourd'hui, avec la place qu'elle occupe dans le paysage, probablement est une tentative d'apporter un nouveau regard sur ces questions-là. Alors, il y a sûrement d'autres raisons, peut-être aussi, en s'éloignant un peu du propos, enfin, les drames du XXe siècle, avec la joie, ont appelé effectivement la nécessité d'une réflexion morale, encore une fois, pour réguler et pour limiter tous ces possibles. Et puis, à côté de ce contexte peut-être intellectuel, un contexte différent, social, on pourrait dire, alors difficile à préciser, où on voit bien dans la société la place de l'individu a changé. Il y a des paradoxes peut-être à mieux comprendre. On a à la fois la promotion d'une certaine responsabilité, l'autonomie, enfin, en considérant que finalement le patient pourrait être acteur de ses soins, responsable aussi du coup des facteurs de risque auxquels il s'expose, enfin, et en même temps un contraste où en fait on trouve des patients dans des situations d'isolement social radical, un individu qui est peut-être plus affaibli qu'on ne le croit. Donc un contexte social qui conduit à peut-être poser des questions éthiques d'une manière assez singulière aujourd'hui. Alors, les exigences des patients, leurs droits reconnus ont aussi complètement évolué. Une place est donnée à l'usager, et c'est un fait finalement assez récent si on se place dans une perspective plus historique. Et puis d'autres aspects peut-être, mais on en parlera tout à l'heure, ce qui est aussi une tendance de la société à judiciariser toute faute qui peut être reconnue. Et de ce point de vue-là, les actes médicaux n'y échappent pas. Alors, tous ces éléments contribuent à pousser, finalement, les aspects éthiques au premier plan, ce qui peut conduire d'une manière très simple au pire comme au meilleur. On peut, de ce point de vue-là, redouter que soient mis en place des protocoles éthiques qui viendraient, finalement, se superposer à des protocoles de soins. Alors que l'éthique et le soin, me semble-t-il, sont intimement liés. On pourrait craindre aussi une éthique de la protection, de l'irresponsabilité, enfin tout un tas de choses qui sont... Et par rapport à ces risques, justement, il me semble qu'une réflexion éthique et les échanges que met en place la Fédération sont sûrement très utiles pour à la fois réfléchir sur ces risques-là et peut-être participer à une réflexion éthique, disons, constructive et pertinente. Je vais m'arrêter là, et puis je crois qu'on va continuer et prendre des questions après.